Magnifique, ma parole d'honneur, quant à propos du drapeau rouge.
Oui, je sais, dit Frédéric.
Après quoi il déclara sa sympathie pour les ouvriers.
Car enfin, plus ou moins, nous sommes tous ouvriers.
Et il poussait l'impartialité jusqu'à reconnaître que Proudhon avait de la logique.
Oh, beaucoup de logique, diable.
Puis, avec le détachement d'une intelligence supérieure, il causa de l'exposition de peinture où il avait vu le tableau de Pellerin. Il trouvait cela original, bien touché. Martinon appuyait tous ces mots par des remarques approbatives. Lui aussi pensait qu'il fallait se rallier franchement à la République. Il parla de son père laboureur, faisait le paysan, l'homme du peuple. On arriva bientôt aux élections pour l'Assemblée nationale et aux candidats dans l'arrondissement de La Fortelle. Celui de l'opposition n'avait pas de chance.
« Vous devriez prendre sa place, » dit M. d'Ambreuse.
Frédéric se récria.
« Et pourquoi donc ?»«
Car il obtiendrait les suffrages des ultras, vu ses opinions personnelles, celui des conservateurs, à cause de sa famille. »«
Et peut-être aussi, » ajouta le banquier en souriant, « grâce un peu à mon influence. »
Frédéric objecta qu'il ne saurait comment s'y prendre.
« Rien de plus facile, en se faisant recommander aux patriotes de Love par un club de la capitale. »
Il s'agissait de lire,
non une profession de foi comme on en voyait quotidiennement, mais une exposition de principes sérieuses.
Apportez-moi cela. Je sais ce qui convient dans la localité, et vous pourriez, je vous le répète, rendre de grands services au pays, à nous tous, à moi-même.
Par des temps pareils, on devait s'entraider.
Et si Frédéric avait besoin de quelque chose, lui ou ses amis...
Oh, mille grâces, cher monsieur.
À charge de revanche, bien entendu.
Le banquier était un brave homme, décidément.
Frédéric ne put s'empêcher de réfléchir à son conseil, et bientôt une sorte de vertige l'éblouit. Les grandes figures de la Convention passèrent devant ses yeux. Il lui sembla qu'une aurore magnifique allait se lever. Rome, Vienne, Berlin étaient en insurrection. Les Autrichiens chassaient de Venise. Toute l'Europe s'agitait. C'était l'heure de se précipiter dans le mouvement, de l'accélérer peut-être. Et puis... il était séduit par le costume que les députés, disait-on, porteraient. Déjà, il se voyait en gilet à revers, avec une ceinture tricolore, et ce prurite, cette hallucination devint si forte qu'il s'en ouvrit à Dussardier. L'enthousiasme du brave garçon ne faiblissait pas.
« Certainement, bien sûr, présentez-vous. »
Frédéric, néanmoins, consulta Deslauriers. L'opposition idiote qui entravait le commissaire dans sa province avait augmenté son libéralisme. Il lui envoyait immédiatement des exhortations violentes. Cependant, Frédéric avait besoin d'être approuvé par un plus grand nombre, et il confia la chose à Rosanette un jour que Mademoiselle Vatenaz se trouvait là. Elle était une de ces célibataires parisiennes qui, chaque soir, quand elles ont donné leurs leçons, ou tâché de vendre de petits dessins, de placer de pauvres manuscrits, rentrent chez elles avec de la crotte à leurs jupons, font leur dîner, le mangent toutes seules, puis... les pieds sur une chaufferette, à la lueur d'une lampe malpropre, rêvent un amour, une famille, un foyer, la fortune, tout ce qui leur manque. Aussi, comme beaucoup d'autres, elle avait salué dans la Révolution l'avènement de la vengeance, et elle se livrait à une propagande socialiste effrénée. L'affranchissement du prolétaire, selon la Vatenaz, n'était possible que par l'affranchissement de la femme. Elle voulait son admissibilité à tous les emplois, la recherche de la paternité, un autre code, l'abolition ou tout au moins une réglementation du mariage plus intelligente. Alors, chaque Française serait tenue d'épouser un Français ou d'adopter un vieillard. Il fallait que les nourrices et les accoucheuses fussent des fonctionnaires salariés par l'État, qu'il y eût un jury pour examiner les œuvres de femmes, des éditeurs spéciaux pour les femmes, une école polytechnique pour les femmes, une garde nationale pour les femmes, tout pour les femmes. Et puisque le gouvernement méconnaissait leurs droits, elle devait vaincre la force par la force. 10 000 citoyennes, avec de bons fusils, pouvaient faire trembler l'hôtel de ville. La candidature de Frédéric lui parut favorable à ses idées. Elle l'encouragea, en lui montrant la gloire à l'horizon. Rosanette se réjouit d'avoir un homme qui parlerait à la chambre. Et puis, on te donnera peut-être une bonne place. Frédéric, homme de toutes les faiblesses, fut gagné par la démence universelle. Il écrivit un discours et alla le faire voir à M. d'Ambreuse. Au bruit de la grande porte qui retombait, un rideau s'entr'ouvrit derrière une croisée. Une femme y parut.
Il n'eut pas le temps de la reconnaître, mais dans l'antichambre, un tableau l'arrêta, le tableau de Pellerin, posé sur une chaise, provisoirement, sans doute. Cela représentait la République, ou le progrès, ou la civilisation, sous la figure de Jésus-Christ conduisant une locomotive, laquelle traversait une forêt vierge. Frédéric, après une minute de contemplation, s'écria « Quelle turpitude !»« N'est-ce pas, hein ?» dit M. d'Ambreuse. Survenu sur cette parole et s'imaginant qu'elle concernait non la peinture, mais la doctrine glorifiée par le tableau. Martinon arriva au même moment. Ils passèrent dans le cabinet, et Frédéric tirait un papier de sa poche quand Mademoiselle Cécile, entrant tout à coup, articula d'un air ingénu « Ma tante est-elle ici ?»« Tu sais bien que non, » répliqua le banquier. « N'importe. Faites comme chez vous, mademoiselle. »« Oh, merci. Je m'en vais. » À peine sorti, Martinon eut l'air de chercher son mouchoir. « Je l'ai oublié dans mon paletot, excusez-moi. »« Bien, » dit M. d'Ambreuse. Évidemment, il n'était pas dupe de cette manœuvre, et même semblait la favoriser. Pourquoi ? Mais bientôt, Martinon reparut, et Frédéric entama son discours. Dès la seconde page, qui signalait comme une honte la prépondérance des intérêts pécuniaires, le banquier fit la grimace. Puis, abordant les réformes, Frédéric demandait la liberté du commerce. « Comment ? Mais permettez !» L'autre n'entendait pas et continua. Il réclamait l'impôt sur la rente, l'impôt progressif, une fédération européenne et l'instruction du peuple, des encouragements aux beaux-arts les plus larges. Quand le pays fournirait à des hommes comme Delacroix ou Hugo 100 000 francs de rente, où serait le mal ? Le tout finissait par des conseils aux classes supérieures. « N'épargnez rien, oh riche, donnez, donnez !» Il s'arrêta et resta debout. Ses deux auditeurs assis ne parlaient pas. Martinon écarquillait les yeux. M. d'Ambreuse était tout pâle. Enfin, dissimulant son émotion sous un aigre sourire, « C'est parfait, votre discours. » Il inventa beaucoup la forme pour n'avoir pas à s'exprimer sur le fond. Cette virulence de la part d'un jeune homme inoffensif l'effrayait, surtout comme symptôme. Martinon tâcha de le rassurer. Le parti conservateur, d'ici peu, prendrait sa revanche, certainement. Dans plusieurs villes, on avait chassé les commissaires du gouvernement provisoire. Les élections n'étaient fixées qu'au 23 avril, on avait du temps. Bref, il fallait que M. d'Ambreuse lui-même se présentât dans l'aube. Et dès lors, Martinon ne le quitta plus, devint son secrétaire et l'entoura de soins filiaux. Frédéric arriva fort content de sa personne chez Rosanette. Delmar y était. Elle lui apprit